j'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
Je savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
19h, 20h.
Heureusement que j'ai des nerfs, sinon, vous imaginez, si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz, oh, qu'elle est moche.
Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle.
Quel bonheur de vous retrouver avec toute la joyeuse bande de Bande à part, Samuel Blumenfeld, Carole Beffa, Marc Lambron et Josiane Savigno. Nous allons fêter les 92 ans de John Williams, qui est certainement donc le musicien le plus célèbre de l'histoire du cinéma avec Bernard Herrmann. D'ailleurs, il fut l'ami de Bernard Herrmann, il a travaillé avec beaucoup de gens. Il a été pianiste de jazz, son père était musicien, lui a tout appris, il a fait des écoles de musique, il a commencé par vivre à New York pour déménager donc vers Los Angeles vers l'âge de 16 ans. Ce John Williams, l'homme de Spielberg, l'homme de Lucas, explique quel est son rôle en tant que compositeur de musique de film. Voici ces quelques secondes qu'il faut écouter avec attention.
Mon job, c'est d'informer et d'améliorer le processus de narration à travers la musique, si je peux. D'écrire les personnages, d'écrire l'atmosphère et l'ambiance de ce que le film exige. Mon job, c'est d'être le collaborateur du réalisateur pour créer toutes ces choses, l'atmosphère, le contenu émotionnel et ainsi de suite.
Voilà pour ces mots, la liste de Schindler, les aventuriers de l'Arche perdue, évidemment, Maman j'ai raté l'avion, Indiana Jones, Les Dents de la mer, Jurassic Park, une pléiade d'Oscars, Harry Potter, Star Wars, The Fabelmans, bon, de très nombreux films dont nous parlerons et des films beaucoup moins connus. Spielberg, 29 films avec John Williams, ce qu'il a de si spécial, nous l'écoutons.
Je pense qu'il se passe quelque chose qui dépasse ma capacité à analyser le génie de John Williams. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais juste que quelque chose se passe. Et il est en quelque sorte capable de prendre les sentiments, les émotions, pour trouver l'équivalent musical de l'émotion, de l'énergie, pour créer une narration musicale. Et il a juste une manière de faire ça autrement que tous ceux que j'ai vu faire le même boulot.
Voilà, en dehors évidemment de cette musique de film, il a composé de très nombreuses musiques, il a été chef d'orchestre à Boston, il a joué Prokofiev, John Adams, Mendelssohn, Leonard Bernstein, on le sait peu évidemment car on pense toujours aux Dents de la mer ou à d'autres grands films, George Gershwin, Joseph Haydn, il a joué avec Isaac Perlman, il a joué avec Isaac Stern, Yo-Yo Ma et tant d'autres grands musiciens classiques. Le voici, car il faut quand même que nous entrions dans la musique en tant que compositeur. Donc de musique de film. Il dirige lui-même, car il est souvent en tournée, le Philharmonique de Vienne pour la BO de Star Wars de George Lucas en 1977. Voilà. évidemment, vous connaissez cette musique, c'est Bonaparte. John Williams est au menu, le plus grand compositeur de musique de film. On en prend plein les oreilles, on en prend plein la vue quand il a commencé à travailler avec George Lucas. Il y avait très peu de moyens pour le film lui-même. En revanche, il y avait énormément de moyens pour la musique, ce qui donnait l'impression, évidemment, d'une sorte de débarquement. Il a connu Spielberg avec Sugarland Express, puis après les fameuses Dents de la Mer. Mais nous allons écouter, donc, car il n'a pas fait que des grands films. Nous allons écouter donc la bande-annonce, ou plutôt la bande-son de La Liste de Schindler. Quand je dis de grands films à grand spectacle, puisque La Liste de Schindler est un film dramatique de Spielberg, et c'est Isaac Perlman, donc l'un des plus grands violonistes, qui est à côté de John Williams. Sam Blumenfeld va évidemment vous expliquer tout ça, puisqu'il s'agit d'un film magnifique, évidemment. Je voudrais simplement donner quelques éléments biographiques. C'est un fils de percussionniste. Avant l'âge de 10 ans, il avait joué de la trompette, du piano, du trombone. Il s'est inspiré d'un compositeur italien au début, qui s'appelait Ottorino Respighi, que je ne connaissais pas. Et donc, il a été pianiste de jazz, mais très rapidement, il a intégré donc les grandes équipes de la Columbia, de la Century Fox. Et il a même travaillé, je le disais tout à l'heure, pour certains Les M'Chauds, donc en 1959, avec toute l'équipe qui s'est occupée de la musique. Donc c'est un curriculum vitae chargé et un homme assez exceptionnel. Que peut-on dire de cette liste de Schindler après avoir entamé ce petit portrait, mon cher Blumenfeld? Bonjour.
Bonjour Guillaume. En fait, là c'est le cas d'une musique qui est composée après que Williams ait découvert les images du film. Et donc, devant le film, Williams avait dit à Spielberg, écoute Steven, il va te falloir un meilleur musicien que moi. Et Spielberg lui avait dit, ça j'en suis bien conscient, mais le problème c'est que tous les autres musiciens que je souhaiterais prendre sont morts, donc tu vas t'y coller. Il s'y colle, et on va dire que le résultat est pour le moins probant. Mais évidemment, ce que l'on écoute, c'est l'interprétation du violoniste israélien Yitzhak Perlman. Et donc, véritablement, le thème composé par Williams est mis entre les mains de Perlman. Perlman est très surpris par la réussite du morceau de Williams. Il lui dit, mais comment est-ce que vous êtes parvenu à composer cette mélodie héritée des sons Kletzmer, hein, véritablement, je veux dire, vraiment d'une tradition juive, vous qui n'êtes pas juif? Et bien évidemment, fort heureusement, la musique juive n'appartient pas qu'aux seuls juifs. Il faut bien garder en tête que lorsque Perlman...
On est dans un film dramatique, après les films à grand spectacle, et avant même, il avait composé des bandes-sons pour La Tour Infernale, en fait des films catastrophes. Donc sa carrière est incroyablement variée.
Elle est incroyablement variée, c'est très juste Guillaume, et surtout il y a une incroyable plasticité chez Williams qui lui permet véritablement d'essaimer partout, comme on va le constater dans la suite de l'émission. Il faut bien garder en tête que lorsque Perlman enregistre la musique de La Liste de Schindler, il l'enregistre devant les images, en les découvrant, exactement comme autrefois Miles Davis devant l'échafaud, ou alors Prokofiev pour Alexandre Nevsky d'Eisenstein. Et véritablement, on va dire que cette plasticité de la mélodie devant les images est assez exceptionnel. Je dirais même que la musique de William Spearman est encore supérieure au film de Spielberg.
Il y a un autre film où il y a du pathétique. C'est
alors, Marc Normand, d'abord, bonjour mon cher.
Bonjour. Est-ce que c'est probablement d'ailleurs le Williams qui fait la musique de La couleur pourpre de Spielberg? Voilà. Il y a aussi, là aussi, une autre couleur, mais dramatique.
Voilà, et on disait tout à l'heure, pratiquement.
Qui est celle de l'esclavage, qui
absolument.
Est
celle de... Voilà, une trentaine de films, donc, de collaboration commune. Petit élément biographique, Durand revient. Quant au départ, justement, de Star Wars, Lucas lui demande de la musique. Au départ, Star Wars était envisagé comme étant une juxtaposition de musique classique, et puis finalement, Lucas se retourne, vers John Williams pour composer, donc, le départ de cette série qui aura un succès mondial et qui avait peu de moyens au départ, mais une musique grandiose. Voici, avec Carol Beffa, John Williams dans le concerto pour violon numéro 1, car il a beaucoup composé, il a beaucoup dirigé le Boston Symphony Orchestra, et c'est Gil Shaham qui est au violon. Nous sommes en 2016. Parfois, on a l'impression d'une sorte de débarquement musical, vous qui êtes transformé ou plutôt tranquillement installé sur votre canapé. Je voulais dire qu'il avait été ami avec André Prévin, avec Bernard Herrmann, qu'il a été musicien de jazz, qu'il a eu un premier Oscar en 71 pour Violon sur le toit, qu'il a donc connu son plus grand succès au début, on l'a complètement oublié, avec un film de William Wyler qui s'appelait « Comment voler $1 million ?» Et puis cette carrière a explosé. Carrière qui s'est prolongée, comme Carole va vous l'expliquer, par effectivement de la musique qu'il compose lui-même, pour lui-même. Tout à l'heure, ce sera le concerto, donc numéro 2. Mais je crois qu'il faut revenir sur cet aspect, et il faut le caractériser aussi, cet aspect de John Williams, d'un point de vue stylistique, mon frère Carole.
Alors oui, je pense que tous les compositeurs de musique de film rêvent d'être reconnus comme compositeurs pour le concert. Oui. C'est le cas, on l'a vu pour Bernard Herrmann, chez qui ça n'a pas tout à fait marché. C'est le cas pour Michel Legrand, qui à la fin de sa vie composait de plus en plus de musique pour le concert, mais ça a aussi été le cas pour Morricone, avec hélas plutôt des échecs. Pour Delerue, pour quantité de compositeurs. Et ici, on voit...
Morricone, les tournées sont des succès colossaux. Hein.
Les tournées, quand il joue, c'est musique de film. Absolument. Pas quand il joue, c'est musique pour le concert.
Absolument.
Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a entendu d'abord, effectivement, le thème de la liste de Schindler. Musique peut-être un brin sucré, mais incroyablement inspirée. Je trouve que cette musique a de Ravel... en partage le génie mélodique et une inspiration relativement simple, mais ça marche
c'est le
incroyablement
compositeur,
bien.
C'est le compositeur Beffa qui s'exprime.
Qu'est-ce qui se passe avec ce concerto pour violon numéro 1? Je pense qu'on a affaire à une musique d'inspiration peut-être un peu bergienne, bartokienne, deux compositeurs qui ont écrit eux-mêmes de grands concertos pour violon, mais ça ne marche pas. Difficile de dire pourquoi. Alors, l'artisanat est présent, comme toujours chez Williams, mais il y a un problème d'inspiration, probablement.
Alors, nous allons voir ce que vous pensez du concerto numéro 2 pour violon, avec Anne-Sophie Mutter, qu'il a composé donc pour Anne-Sophie Mutter. C'est donc le Boston Symphony Orchestra. Il a beaucoup joué à Boston, donc il a vécu à Los Angeles la plupart du temps, mais il est né à New York, donc il fait évidemment la navette entre les deux grandes villes américaines. Voici ce concerto numéro 2. Essayons d'approfondir en dehors des célèbres musiques de film, concerto numéro 2, donc 2022. John Williams, qui dirige le Boston Symphonic Orchestra, il a déjà 90 ans. Alors, je voulais préciser, mon cher Carole, que en dehors de cette monumentale carrière de musicien de cinéma, c'est dès les années 70, lui qui a été pianiste de jazz auparavant, qui compose un concerto pour flûte et orchestre en 69 et une sinfonietta dans les années qui ont suivi, et même un essai donc auparavant pour cordes qui a été créé par André Préval. Je donne un certain nombre de précisions, mais il faut expliquer d'abord ce que vous pensez de ce deuxième concerto.
Alors, je le trouve, quant à moi, beaucoup plus inspiré. C'est une œuvre plus récente, avec une fraîcheur, on peut dire. Non, ça a l'air peut-être un peu trop professoral, mais il y a quelque chose d'extrêmement rafraîchissant dans cette musique, écrite pourtant par un compositeur de près de 90 ans, qui retrouve ici une certaine jeunesse, je trouve, un bain de jouvence, avec cette musique de texture, un temps dilaté, étiré, musique très contemplative, avec ce paradoxe d'un statisme en mouvement. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'avoir à faire quelque chose comme une immobilité.
Vous n'êtes pas en train de travailler à France Culture,
si,
vous?
Si, mais c'est la même radio, c'est le service public et les radios privées, même combat.
Faites-moi
même
du statisme vivant, allez-y.
Alors, mais qu'est-ce qui travaille de l'intérieur cette musique? Ce sont ces textures qui sont toujours extrêmement ouvragées et qui font que on a, contrairement au précédent concerto où on avait vraiment un peu dans l'esprit romantique une rivalité entre le soliste, symbole de l'individu, et l'orchestre qui serait comme la foule, la société. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus imbriqué, peut-être plus intéressant.
Peut-être parce qu'il l'a délibérément créé pour elle.
Et il y a ça, il y a aussi le fait que sur cette longue musique, il fallait évidemment varier les plaisirs, les modèles orchestraux, et je trouve qu'il y arrive tout à fait. Alors, c'est un compositeur de nombreux concertos, vous avez cité le concerto pour flûte, on a là deux concertos pour violon, mais il y a eu aussi pour d'autres instruments, le violoncelle, le basson par exemple, et j'en oublie un certain nombre.
Nous allons parler, mais Sam voulait nous dire quelque chose, Blumenfeld, nous allons parler de ce qui fut le début de la carrière, alors le début, pas le début, disons le milieu de la carrière, parce qu'il a 90 ans, donc, de notre ami John Williams, quand il a tourné des films qui n'étaient pas des films de la bande Lucas, Spielberg, etc., mais des films moins connus, mais en tout cas très connus, des cinéfilms que Marc Lambron. Vous y ajoutez quelque chose, Samuel?
Oui, c'est que cette musique atonale, bartokienne, que décrit très bien Carole, on la retrouve au moins une fois au cinéma, dans Image de Robert Altman, qui est l'une des deux collaborations de John Williams avec Altman, donc Image et puis ensuite The Long Goodbye, dans Image qui met en scène une femme schizophrène, justement. C'est une partition qui était extrêmement audacieuse, avant-gardiste, expérimentale, et c'était la partition préférée de John Williams, qui disait que s'il n'avait pas rencontré Spielberg, il aurait en fait pris un chemin tout à fait différent.
En 1973, le voici, le privé de Long Goodbye de Robert Altman, donc chanté par Jack Sheldon, et Marc Lambron entre en scène.
There's a long goodbye, and it happens every day.
when some passerby invites your eye to come her way. Even as she smiles a quick hello, you let her go, you let the moment fly. Too late you turn your head, you know you said the long goodbye. Can you recognize the theme on some other street? Two people meet as in a dream, running for a plane through the rain. If the heart is quicker than the eye, they could be lovers until they die. It's too late to try when a missed hello becomes a long.
Voilà, je tape, ça swing. Je le disais, il a été musicien de jazz, il a eu plusieurs orchestres de jazz dans sa jeunesse, en même temps donc qu'il intégrait les grands studios américains. Il a travaillé pour Mahalia Jackson. Et petite devinette, Marc Lambron, il a trois enfants de son premier mariage. Et le dernier de ses trois enfants du premier mariage s'appelle Joseph. Qu'a-t-il fait dans sa vie?
Ah, ça, je ne sais pas.
Eh bien, c'est le chanteur de Toto.
Ah, Toto, oui,
le célèbre groupe de rock'n'roll. Donc, ce garçon a absolument tout fait. Parlez-nous du privé d'Altman.
Donc, vous disiez pianiste et arrangeur de jazz, plutôt un jazz blanc, un jazz côte ouest, celui d'Art Pepper et de Jerry Mulligan. Samuel indiquait qu'en 1972, il travaille pour Altman, pour Image, la première fois, qui d'ailleurs vaudra à Susan Lyork un prix d'interprétation féminine à Cannes. Et l'année suivante, voilà le privé, The Long Goodbye. Alors, c'est intéressant parce que c'est une sorte de synthèse entre le vieil Hollywood et le nouvel Hollywood. D'abord, c'est adapté d'un roman de Raymond Chandler. Il va chercher Lee Brackett, qui avait déjà, avec Faulkner, adapté Le Grand Sommeil. Mm-hmm. Mais ça n'est plus Bogart, c'est Elliot Gould, l'Elliot Gould de MASH, avec sa désinvolture. Et en face, il y a Sterling Eden, c'est-à-dire Johnny Guitar lui-même, qui d'ailleurs passe le tournage sous cannabis. Et là encore, le privé conduit une Lincoln Continental modèle 1948, mais il a pour voisin des hippies naturistes. Alors tout ça se cristallise dans la musique.
J'adore.
Dans la musique de John Williams, c'est-à-dire c'est un pastiche, c'est une musique de bar avec un crooner à la voix fatiguée, presque Tom Waits, mais qui reflète bien le côté éraillé, nostalgique et je m'en foutiste du film. Le chanteur s'appelait Jack Sheldon. Comme Chet Baker, il était à la fois trompettiste et chanteur, ce qu'on entend, et il nous a quittés en 2019.
Alors, nous avons entendu évidemment des concertos, parce que dans Mon Appart, nous essayons d'approfondir que le grand public connaît relativement peu la bande-son du privé, que l'on connaît évidemment beaucoup moins que d'autres musiques, comme par exemple celle des Dents de la Mer en 75. Là, c'est vraiment avec Sugarland Express, la rencontre avec Spielberg, et le monde entier est frappé. Thank you. ce regard phénoménal qui va faire basculer Hollywood. Les écrivains du cinéma vous diront que le dernier grand film classique d'Hollywood, même s'il a intégré des acteurs du nouvel Hollywood comme Jack Nicholson, c'est Chinatown. Et puis tout d'un coup, arrive justement ce film de Spielberg, très peu de moyens, donc on change totalement de registre, mais une musique incroyablement marquante et le box-office qui s'envole, évidemment dans les proportions considérables. Et à partir de ce moment, le cinéma aura changé sous l'influence justement de la musique. Simon Rattle dirige le Philharmonique de Berlin. Nous allons encore entendre une de ses partitions évidemment qui a ravagé le monde. C'est la bande-son et l'aventurier de l'Arche perdue. Inutile de vous dire qui joue le rôle principal. Nous sommes en 1980 et c'est Spielberg qui est, non pas à la manette, mais qui est derrière les caméras. Harrison Ford, Steven Spielberg, 1980, donc Les Aventuriers de l'Arche perdue. Je parlais de La Tour Infernale, parmi les films qu'il a fait avant, mais parmi les films qu'il a fait après, il y a même l'autobiographie au cinéma de Spielberg, de Fablemans, et puis donc Ce violon sur le toit, et puis donc Geisha, Catch Me If You Can en 2002, et la série Les Harry Potter, donc qu'il va démarrer pour finir par la laisser donc au français Alexandre Desplat pour les deux derniers numéros. C'est une carrière pléthorique, c'est une carrière phénoménale, pratiquement que des succès à son actif. Et Steven, et donc John Williams, a aujourd'hui, cette semaine, 92 ans.
Chères auditrices, chers auditeurs, Radio Classique fête son 40e anniversaire. Ensemble, soufflons ces bougies à l'occasion d'un concert unique au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Venez écouter les airs les plus emblématiques de votre radio et les musiques pour lesquelles vous aurez voté, interprétées par l'Orchestre National d'Île-de-France et des invités d'exception. Le grand concert anniversaire de Radio Classique, présenté par Jean-Michel Duez, les 4 et 5 juillet au Théâtre des Champs-Élysées. Réservez dès maintenant vos places sur théâtrechampselysees.fr.
Entre électro et néoclassique, Paul Colomb et le Bleu Quintet tissent des liens autour de différentes traditions musicales. Un quintet de violoncelle, entre lyrisme exacerbé et sonorité mystique, s'inspirant de musique indienne et rythmique. Paul Colomb et le Bleu Quintet, un disque Mirare, disponible dans les magasins Fnac et sur Fnac.com.
Vous trouvez que vos placements ne vous rapportent pas assez? Savez-vous qu'en suivant les conseils boursiers d'Investir, vous pouvez gagner plus de 9% par an? Avec la rédaction d'Investir, profitez des meilleurs conseils financiers et suivez l'actualité des marchés pour saisir toutes les opportunités. N'hésitez plus, abonnez-vous car maintenant, vous savez. Investir, l'abonnement très rentable depuis 50 ans. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Fragment d'un sentiment amoureux. Le Cercle de l'Harmonie et Jérémy Rorer, en compagnie de la mezzo-soprano Marina Viotti, révèlent le sentiment amoureux dans tous ses états, amor furor. Des premiers émois au transport d'amour furieux, Mozart, Gluck, Mendelssohn, Saint-Saëns, Bizet et le tempérament de feu de Marina Viotti. Jérémy Rorer et le Cercle de l'Harmonie, amor furor, à l'Auditorium de Lyon le 13 février et le 14 février au Grand Théâtre de Provence.
C'est ma femme. Je voudrais connaître son emploi du temps quand elle vient à Paris, savoir où elle va, qui elle voit. J'ai des soupçons sur sa fidélité, je vous demande de vérifier, c'est normal.
19h, 20h.
J'ai fait les bourgeoises, j'ai joué les paysannes, j'ai joué les directrices des journaux, les mauvaises actrices. J'ai vraiment tout fait, j'ai eu beaucoup de chance.
Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Voilà les voix marquantes du cinéma, Michel Bouquet et Simone Signoret. Nous la jetons évidemment tous les deux et nous écoutons la musique de John Williams, le plus grand compositeur, probablement avec Bernard Herrmann, de musique de film. D'ailleurs, il a connu Bernard Herrmann, il est devenu très ami avec lui, mais il a aussi connu Dimitri Tonkin, donc beaucoup de musiciens qui ont fait le cinéma du XXe siècle. Le voici dans la bande son de 1941. Nous revenons avec Spielberg en 79, après Sugarland Express et les Dents de la Mer, et c'est Marc Lambron qui va nous en parler. Alors Marc, dans la première partie, nous écoutions grâce à vous, donc dans le privé d'Altman, une musique de John Williams qui était évidemment très proche de l'orchestration du jazz. Il a d'ailleurs Juilliard School, enfin il a fait UCLA, beaucoup d'écoles de musique aussi. Et là nous sommes plus proches de la fanfare.
En effet, alors c'est un film de Spielberg qui vient après Les Dents de la Mer et Rencontre du Troisième Type, et ça va être en 1979 l'un des rares échecs de Spielberg. Le film est pourtant coécrit avec un futur ami du succès qui est Robert Zemeckis, qui va tourner Qui a peur de Roger Rabbit ou Forrest Gump. Le thème, comédie parodique en une phrase, panique à Los Angeles en 1941 à l'approche d'un sous-marin japonais. Alors là aussi, vieille et nouvelle Hollywood, il va chercher Dan Aykroyd et John Belushi, donc les Blues Brothers. Mais en face d'eux, il y a Christopher Lee, donc le Dracula de haute mémoire. Il y a Robert Stack, qui était déjà dans To Be or Not To Be de Lubitsch, et avec cette scène très amusante où il joue un général.
Donc, les Incorruptibles.
Les Incorruptibles en feuilleton, et il joue un général qui est ému aux larmes en voyant le Dumbo de Walt Disney. Toshiro Mifune, qui est le samouraï suprême. Et il avait même sollicité John Wayne, qui refuse parce qu'il trouvait le scénario antipatriotique. Alors, c'est un film délirant, c'est un hommage au slapstick comique, c'est-à-dire aux comédies tarte à la crème de l'époque du muet. Il y a une allusion à un moment à une scène de Capra dans New York, Miami. C'est très autoréférentiel dans la musique même, puisque au moment où le sous-marin japonais...
C'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché, c'est peut-être trop compliqué, trop complexe, plein de clins d'œil.
Il y a plein de clins d'œil, enfin, en même temps, une culture populaire, mais c'est vrai qu'il y a des clins d'œil. Par exemple, quand le sous-marin apparaît, il y a une reprise brève du thème des Dents de la Mer, comme si c'était un requin. Il y a une station-service, c'était celle de Duel, qui était le premier film à succès de Spielberg. Alors en effet, c'est une marche. Alors, c'est intéressant ça marche, parce qu'il y a un côté martial parodique. C'est un film de satire. Mais il y a quand même aussi un grand compositeur de musique qui était John Philip Sousa, qui a composé toutes les grandes fanfares, les grands thèmes de fanfares américains. Et dernière chose, ça va vers d'autres marches. Qui seront très nombreuses, par exemple dans La Guerre des Étoiles, quand Darth Vader apparaît, ou les thèmes du générique, la marche est un thème spatial chez Spielberg et John Williams.
Le voici donc, John Williams, puisqu'il dirige le National Philharmonic Orchestra. C'est Carole Beffa qui va nous en parler. Cette fois-ci, c'est la bande-son donc du Troisième Type. Spielberg, bien sûr, 77. Vous allez encore en prendre plein les oreilles. Si l'on voulait faire de l'humour facile, je dirais à Carole qu'il ne s'agit évidemment pas d'Eric Satie. Quand John Williams prend une partition, il en met un maximum, il met le paquet, bien évidemment, utilisant toutes les armes de l'orchestre symphonique, donc pour cette rencontre du 30e type, qui date de 77. Carole, vous présentiez les concertos, la musique qu'il a essayé de composer dans la veine de la musique classique, mais c'est évidemment avec les films et ces films célèbres qui ont rencontré les succès mondiaux que lui-même a rencontré un succès mondial.
Tout à fait. Alors, Samuel l'a bien dit, il y a une vraie plasticité dans le style de John Williams. Et à côté de certaines BO éminemment mélodiques, thématiques, ici on a affaire à une musique quasiment amélodique. Difficile, une fois que vous avez écouté cet extrait, de pouvoir chanter, fredonner, comme si...
Sauf qu'on est un peu assourdi, quoi, en gros.
Oui, il y a un peu de chaud. Il y a effectivement...
Mais dans le bon sens du terme, quoi.
Il y a de temps en temps des éclats de cuivre... plutôt consonant, d'autres au contraire franchement dissonant. Vous avez une percussion tantôt de ponctuation, tantôt très liquide, qui est là pour amener une espèce de grand crescendo. Comme pour les Dents de la Mer, effectivement, on a affaire à une musique qui est à la limite du bruit, comme si les frontières entre bruit et musique n'étaient pas...
Moi, je préfère un petit coup de Dents de la Mer, parce que j'aime tellement ça. Allez-y, continuez.
Mais je trouve que cette façon de combiner à la fois ce qui sera ensuite le privilège des sound designers et d'une musique, c'est-à-dire d'avoir à la fois quelque chose qui est vraiment de l'ordre de son et de la musique, on le retrouve ensuite chez bien des compositeurs, mais il est probablement l'un des compositeurs de musique de film à l'origine de cela. C'est une chose qu'on trouve d'ailleurs...
C'est pour ça que je rappelle, parce que moi je suis le psychanalyste de bazar, que papa était percussionniste.
Et vous avez bien raison, aujourd'hui, dans SAD21 du chorégraphe Oad Naharin, vous avez à Garnier ce même mélange de musique très efficace sur un décor quasiment géométrique, presque abstrait, qui tantôt fait référence à Gavin Bryars, tantôt est pure musique bruiteuse, on peut dire, et ça marche.
Il va y avoir une devinette pour tout le monde, mais c'est évidemment Blumenfeld qui va gagner. Qui joue les premiers rôles? Quels sont les acteurs qui jouent les premiers rôles des Dents de la Mer, mon cher Samuel?
Robert Shaw, Roy Scheider, Richard Dreyfuss.
Eh bien voilà. À eux deux, ils ont gagné. Il s'agit de Lambron et de Samuel Blumenfeld. Missouri Bricks. Alors là, on est dans le film d'auteur Arthur Penn, donc cinéaste gigantesque en 76, qui prouve la plasticité de John Williams, car c'est encore lui. Je voulais ajouter d'un point de vue biographique dès 1982, il en était déjà à son 4e Oscar. Ça a commencé en 71 avec Le Violon sur le Toit. En 82, c'est pour E.T. l'extraterrestre, et là nous sommes dans un film d'Arthur Penn, donc en 1976. Il varie vraiment les registres, puisque 1941 dont nous parlions donc tout à l'heure, c'était en 79. Et puis il y a des films comme en 78 Superman. Enfin, on change vraiment de registre, hein, et on a l'impression, mon cher Marc, qu'au fond, c'est une grande partie de la culture américaine qu'il arrive à brasser dans tous les registres.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une polymorphie qui est une chose de certains grands musiciens américains ou chanteurs. Je ne vais pas le comparer à Bob Dylan, mais si vous prenez l'opus intégral de Bob Dylan, vous verrez aussi qu'il a fait des incursions, qu'il a cannibalisé, qu'il a revisité toutes sortes de musique et de genre.
Et donc, Missouri Bricks, donc ce film d'Arthur Penn. Voici maintenant John Williams avec un autre grand metteur en scène, parfois contesté, mais en tout cas dont le film a été marquant. Il s'agit de JFK et d'Oliver Stone. Nous sommes en 1991 et c'est toujours John Williams qui est à la veillette et à la composition. We'll be right back. La puissance musicale, la variété donc évoquée par Marc Lambron tout à l'heure, intégrant donc les grands moments de la culture américaine. Mais Samuel Oliver Stone, tout à l'heure on parlait d'Arthur Penn, de Spielberg, évidemment de George Lucas et de tant d'autres. Il fallait quand même avoir un sacré caractère pour affronter ces géants du cinéma qui sont pas quand même des gens extrêmement faciles.
Absolument. William sait s'adapter à toutes les personnalités. Et d'une certaine façon, il les domine à sa manière, c'est-à-dire qu'il impose son goût musical. Vous voyez, ce qui est frappant sur JFK, c'est que la musique qu'on vient d'entendre a été composée avant que Williams ait vu le film et avant même qu'il ait lu le scénario. C'est qu'en fait, c'est l'idée que Williams...
Ah, de John Kennedy.
De John Kennedy. Et du coup, cette musique est écrite à la première personne. Le morceau qu'on vient d'écouter est assez élégiaque. Et en fait, on ressent un petit peu tout ce qu'a pu être le John Williams des années 60. Mmh. Ce qu'a représenté pour lui l'ère Kennedy. Donc, une ère pleine d'espoir. Et du coup, quand on écoute ce morceau, on se rend compte d'une chose. C'est que le Williams qui apparaît au début des années 70, celui de The Long Goodbye, celui d'Image de Robert Altman, celui de Missouri Breaks, est un John Williams beaucoup plus névrosé. Et tout simplement beaucoup plus névrosé parce qu'en fait, Williams, lorsqu'il éclate sur la scène musicale, justement, dans les années 1970, il porte en lui les illusions perdues des années 70. Il porte en lui les névroses d'une décennie qui porte le deuil de la précédente.
Voici quelques mots d'Alexandre Desplat dont je parlais tout à l'heure, qui a succédé, car à un moment, John Williams s'est consacré au fond à la direction d'orchestre, à la composition. Il a un peu lâché la bride. Il faut dire qu'il a dû quand même, mon cher Carole, gagner beaucoup d'argent avec les droits d'auteur. Et donc, il a composé les trois premiers volets de la série Harry Potter, et puis il a laissé Desplat donc s'occuper des deux suivants. Et voici ce que Desplat pense justement de cette succession ô combien difficile.
John Williams, évidemment, c'est ma plus grande idole. Donc arriver après John Williams, c'est très simple, vous êtes en panique. Voilà, vous demandez bien comment vous allez vous sortir de ce guépier. J'ai eu de la chance parce que le film, le premier épisode, se passait en dehors de l'école. Donc avec le metteur en scène, il a assez vite décidé qu'on utiliserait peu le thème de John Williams. Donc je le cite parfois, une mesure, deux mesures, comme ça, de temps en temps, comme un petit écho. Donc j'ai eu cette chance-là et de pouvoir chercher autre chose.
Depuis le début de cette émission, bande à part, non seulement celle-ci, mais les précédentes, nous vous montrons à quel point il existe une symbiose entre la musique et le cinéma, entre le son et l'image. Nous avons parlé de Bernard Herrmann. Et bien justement, voici par exemple la manière dont John Williams a composé la musique du dernier film d'Alfred Hitchcock, qui a évidemment travaillé avec Bernard Herrmann pour Vertigo et de nombreux autres. C'est Complot de famille, et nous sommes en 1976. Hitchcock, Marc Lambron.
Oui, alors comme vous l'avez dit, il a connu et repris le sceptre de grands compositeurs de l'âge d'or d'Hollywood. Il a connu Dimitri Tiomkin, Alfred Newman, Franz Waxman et Bernard Herrmann, qui l'avait encouragé à écrire une symphonie. Et ça sera la seule incursion de Williams dans ce genre. La symphonie n'est pas une réussite. Mais la réussite ou le succès, c'est qu'en 1971, il obtient son premier Oscar pour une adaptation du Violon sur le toit. Il a 29 ans. Mm-hmm. Ensuite, vous l'avez signalé, Film Catastrophe. Alors, c'est L'Aventure du Poséidon, Tremblement de Terre, La Tour Infernale.
J'ai adoré quand j'étais jeune, La Tour Infernale, avec Steve McQueen.
Fred Astaire. Et 1975, donc deuxième Oscar pour Les Dents de la Mer, il a 33 ans. Et l'année suivante, donc le dernier film de Hitchcock, Complot de famille, avec là aussi des acteurs assez nouveaux Hollywood, puisqu'il y a Bruce Dern et Karen Black. Mais au moment où Herman, 76, pour Taxi Driver de Hitchcock, devient une sorte, enfin fait une partition jazzy, comme vous l'avez entendu ici, John Williams pastiche Herman comme s'il composait un requiem pour Hitchcock, avec notamment ses voix comme on en trouve dans Obsession de Brian De Palma, musique composée par Herman. Dernière chose, c'est que sur la polymorphie de Williams, c'est que la même année, il fait la musique de, comme on l'a vu tout à l'heure, de Missouri Breaks, qui est un film d'auteur de Arthur Penn, mais aussi de la bataille de Midway de Jack Knight, et il se fait la main, c'est-à-dire que avant la guerre des étoiles et les objets volants, ce sont les Mitsubishi Zero, les avions japonais de la bataille du Pacifique.
Voilà, 92 ans, depuis l'âge de 80 ans, il s'est un peu, non pas retiré du cinéma, car il est impossible que John Williams se retire du cinéma, mais il s'est beaucoup plus consacré, effectivement, à la direction de grands orchestres. D'ailleurs, c'est un phénomène qui est de plus en plus présent dans l'histoire de la musique, puisqu'Ennio Morricone aussi, comme le disait tout à l'heure Carole Beffa, joue lui-même à travers les salles de concert du monde entier une grande partie de ce qu'il a composé pour le cinéma, même ce qu'il a composé pour la musique dite classique est évidemment beaucoup moins joué. Et tout ça remporte un succès considérable. Prenons un exemple de Morricone, justement, qui nous rappelle ce Clint Eastwood. Promène dans l'histoire de la musique. Alors, évidemment, Samuel vous l'a raconté à de très nombreuses reprises. Il y a aussi le dessin animé. John Williams s'est intéressé à Tintin quand Spielberg s'est intéressé à Tintin. L'industrie du dessin animé s'est intéressée à la musique classique, car quand vous regardez ou quand vous écoutez Fantasia, vous trouvez à la fois Toccata et Fugue de Bach, La nuit sur un mont chauve de Moussorgski. Mais on s'occupe aussi, par exemple, de la musique pop dans l'idée du cinéma. La plupart des bandes annonces de Scorsese, c'est du rock. Et je vais vous poser des petites questions, évidemment, devinettes pour terminer, et après vous conclurez. Par exemple, il y a un site en anglais qui s'est intéressé aux musiques, justement, populaires, type rock, qui ont été le plus utilisées dans le cinéma. Alors, je tiens à vous dire que c'est, si vous trouvez, vous êtes hyper fort. Il y a un rappeur, MC Hammer, qui a été énormément utilisé. Il y a évidemment Eye of the Tiger, qui a voulu Stallone, qui a été extraordinairement utilisé. Et là, c'est un titre de Norman Greenbone. Alors, peu de gens connaissent
Spirit in the Sky,
qui a été, tenez-vous bien,
des années 70,
voilà, qui a été utilisé dans Apollo 13, dans Le Monde selon Wayne, dans Suicide Squad, dans encore une dizaine de films. Voilà ce que ça donnait. Autre
exemples de grands succès rock qui ont été utilisés dans le monde du cinéma hollywoodien. Par exemple, AC/DC, Back in Black, vous le trouvez dans Iron Man, vous le trouvez dans Les Schtroumpfs, vous le trouvez dans Karate Kid. Enfin bref, vous le trouvez un petit peu partout. Je ne vous parle pas du September de Earth, Wind and Fire, mais pour terminer, nous allons conclure avec David Bowie, car dès qu'il y a une ambiance un peu bizarre dans le cinéma, eh bien, on vous met du Under Pressure de Bowie. C'est le cas de Girl Next Door, d'After Sun, de Quand Chuck rencontre Harry. Bref, là aussi, encore une fois, les droits d'auteur qui tombent et qui tombent. Ces musiques pop qui ont été utilisées par le cinéma à de nombreuses reprises. Je ne parle même pas de la publicité où l'utilisation est évidemment monumentale. Nous allons revenir évidemment à John Williams et à Jurassic Park avec un livre et avec Josiane Savigno. Un petit mot de conclusion à tous les trois. Carole, évidemment Sam et Marc, est-ce que vous avez le sentiment que quelque chose a basculé? Parce qu'au fond, c'est toujours la question qu'on se pose avec les compositeurs. C'est comme avec les peintres, comme avec la littérature. Est-ce qu'avec Williams, quelque chose tourne, Marc? Alors, je parle Marc et je regarde Carole. Évidemment, ça prouve que je suis très atteint, mais c'était Carole que je voulais interroger.
Moi, je vais être un peu mélancolique et pessimiste. Je pense que, pour parodier Marx, il y a une baisse tendancielle du niveau de musique de film flagrant depuis 30-40 ans. Et ce n'est évidemment pas John Williams qui en est responsable, il est l'un des derniers grands, mais c'est peut-être l'utilisation de la machine, de l'ordinateur, qui fait que désormais, les réalisateurs ne veulent plus prendre de risques et vont, en règle générale, exiger de leur compositeur une maquette, et ce qui fait que on n'aura plus ces collaborations avec des risques pris comme on pouvait avoir auparavant. Désormais, tout cela fait une musique souvent, hélas, beaucoup trop formaté, avec des compositions qui commencent très exactement quand débute une séquence et se termine quand termine cette séquence. Pas moyen d'anticiper, pas moyen de mordre.
Il y a la liberté du JFK, où au fond il avait fait la musique avant même d'avoir vu le film, donc c'était quelque chose de très inspiré par lui-même.
Et aujourd'hui, il n'y a plus un seul compositeur de musique de film dont on pourrait dire qu'il est évidemment le digne hérité de John Williams, ça on en est bien loin, mais même dont les musiques soient, à mon avis, véritablement original.
Samuel.
Moi, il me semble que John Williams est grand lorsqu'il travaille avec Altman. Peut-être qu'il n'a jamais été aussi grand d'ailleurs qu'en travaillant avec Altman. Il est très grand en travaillant avec Stone, JFK, mais également Né un 4 juillet. Très bon film. Et donc, j'ai l'impression qu'avec Spielberg, évidemment, Williams peut pas être grand. Je pense à Rencontre du troisième type, je pense aux Dents de la Mer, où véritablement s'installe cette filiation Stravinsky, Herman,
le monde entier
Williams.
A été frappé, hein. Je suis là non pas pour le défendre. Les Williams, ce sont pas les Durand, mais les gens, tout le monde se souvient de, on rentre dans la salle de cinéma, on va voir les Dents de la Mer, les moyens sont relativement faibles, les acteurs sont pas des top acteurs de l'époque, à part peut-être Richard Dreyfuss. On a une espèce de faux requin, donc il est évident que c'est un faux requin.
Et qu'il faut planquer.
Et la musique vous emmène.
Absolument.
Il n'y a que la musique qui vous emmène.
Absolument. Et j'ai l'impression que Williams est grand lorsqu'il est tiré vers le haut par de très grands auteurs ou par Spielberg à son meilleur. Et puis il s'étiole un peu, il se simplifie au fur et à mesure que justement sa collaboration avec Spielberg devient moins riche parce que les films de Spielberg sont parfois inégaux.
Marc, pour ce 92e anniversaire, quel petit mot lui adresseriez-vous?
Moi je trouve que le risque et la limite, c'est le pompier. C'est de la pompe au pompier, et il y a quand même Slash et John Williams, ce qui fait que sur ma playlist, pour parler français, je préfère écouter pour le passé, je sais pas, Herman, Nino Rota, et après Williams, mettons Angelo Badalamenti ou Alberto Iglesias par exemple, qui compose pour les films d'Almodovar. Et j'ai toujours, il y a toujours ce côté fanfare américaine, parade dans la grande rue de Disneyland, qui d'une certaine manière est trop mainstream pour parler aussi français.
Voilà. Mais c'est Los Angeles, c'est New York, c'est au fond une grande partie de la culture américaine. Vous le disiez vous-même tout à l'heure. Nous allons revenir.
Ils ne sortent pas toujours de la grande rue. Ils devraient sortir un peu plus.
Nous allons revenir à Spielberg et à Jurassic Park avec Josiane Savigno dans un instant. Merci les garçons d'avoir passé ce dimanche après-midi avec les auditeurs de Radio Classique.
19h-20h.
La chamade, c'est une expression, vous savez, le cœur bat la chamade, et ça vient d'une expression de guerre qui voulait dire que quand une ville assiégée se rendait, les tambours et les clairons jouaient la chamade.
Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
La petite voix charmante de Françoise Sagan et la musique tenue truant, donc de John Williams pour Jurassic Park de Spielberg, nous sommes en 93. Ces grands animaux qui débarquent effectivement et la musique qui deviendra tonitruante. Ma chère Josiane, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Vous avez trouvé John Williams, un alchimiste musical à Hollywood, livre.
Et oui, j'ai trouvé que ça aux éditions L'Armatant dans la collection L'Univers Musical. C'est un livre collectif. Il est disponible en numérique, donc je le recommande à tous les gens qui s'intéressent à John Williams parce que c'est un livre très intéressant, 14 intervenants, c'est un livre collectif, je le disais, assez savant, parfois peut-être un peu trop savant pour moi. Par exemple, il y a tout un développement sur l'influence wagnérienne de John Williams, qui peut être un peu passé au-dessus de mes compétences. Ça n'est pas une biographie, mais cela dit, il y a quand même des éléments biographiques sur sa formation à la Juilliard School, ses débuts à la Columbia, et sa première collaboration avec Spielberg, dont vous avez tous dit qu'il était une sorte de fils, d'une certaine manière, qui était juste un an avant les Dents de la Mer pour le premier long métrage de Spielberg, Sugarland Express.
Absolument.
Et puis, le type qui dirige ce livre, Alexandre Tilski, l'a déjà écrit sur le cinéma. Et en fait, c'est un livre assez ses interventions à lui sont assez personnelles. Il dit que pour beaucoup de cinéphiles nés dans les années 1970, donc ça doit être son cas, la seule évocation de John Williams résonne aussitôt comme un tour de magie audiovisuelle, mélodique, symphonique, narratif. Évidemment, quand même, on fait pas l'impasse sur les critiques, sur ses détracteurs qui mettent l'accent sur qui souligneraient trop les effets de mise en scène, qu'il accompagnerait trop fidèlement ce qui se passe sur l'écran. Mais ça, c'est plutôt négatif. S'il y a très peu de choses négatives, et ce Tilski, il est allé le voir, John Williams, en 2009. Mmh. Et il dit, il m'a parlé...
Dont on rappelle, pour ceux qui nous prennent en cours, qu'il est toujours vivant.
Il est toujours vivant, il a 92 ans. Donc en 2009, il était plus jeune, évidemment. Et il dit, il ne m'a parlé que d'enfance, mais pas la sienne. Il ne m'a fait aucune confidence. Mais il m'a dit à quel point il voulait rester un enfant s'amusant à écrire de la musique et à faire de la musique, ce que j'ai trouvé assez séduisant. Et évidemment, il fait intervenir aussi des compositeurs de musique de films contemporains qui ne plairaient pas forcément à notre camarade
Carole.
Mais notamment Bruno Coulet qui dit John Williams, c'est ce qui reste d'enfance en nous. Ça m'a assez plu. Et alors il y a aussi ce que, pour finir, je voudrais de laisser la parole à John Williams comme souvent, et on lui demande s'il y a un style Williams. Mm-hmm. Et il répond: j'ai fait tellement de films. Il me faut changer de style et d'approche à chaque composition. Je n'ai jamais essayé de créer un style Williams. Et pourtant, vous pouvez passer une heure à démontrer qu'il y a bien un style Williams.
Absolument, et en même temps une énorme diversité, puisqu'on a entendu du jazz, on a entendu du banjo, et on a entendu des compositions qui étaient parasymphoniques, évidemment. Et les plus grands metteurs en scène qui ont travaillé avec lui, Spielberg, Lucas, Arthur Penn, donc Oliver Stone, et beaucoup d'autres. Merci Josiane. On rappelle le titre de ce livre, édition L'Armatant, John Williams, un alchimiste musical à Hollywood.
Dirigé par Alexandre Tilski.
Les voici passés. Le meilleur week-end possible, nous sommes dimanche. Nous attendons que le soleil revienne massivement sur la France, notre beau pays, et nous nous retrouvons la semaine prochaine.